Bonsoir et bienvenue à tous. Je me présente donc Didier Aycapé. Je vais faire un petit peu le faux JL de ce soir. En moins méchant quand même, on va essayer d'être un peu plus gentil, même si enfin, pour ceux qui le connaissent, il anime, il a des fois des questions un petit peu virulentes. Donc ce soir, on va essayer de... Ben, on a donc les deux auteurs de cet ouvrage Pilotage donc, des ressources humaines en PME. Et on va essayer, effectivement, qui vous anime cet ouvrage, ce livre, comment est venue, effectivement, cette aventure. Alors, je vais commencer, effectivement, puisque on a donc ici deux auteurs. Annick Schott, qui est, effectivement, maître de conférence à Bordeaux-Montaigne. pas non plus Bordeaux 3, mais on ne parle plus de Bordeaux 3. Donc, en sciences de l'information et de la communication. Michel Jurquet, donc Jurquet, j'oublie pas le R, Jurquet, qui est expert judiciaire. Alors moi, ma première question, effectivement, comment un maître de conférence et en sciences de l'information et puis un expert judiciaire se retrouve pour écrire un livre sur effectivement le management et le pilotage de la ressource humaine sur un thème aussi technique. Qui en plus aborde la question de la PME. Donc moi, la première question, c'est comment est venue cette idée et votre aventure autour de cet ouvrage.
Alors l'idée, elle est venue de Michel. Ouais. Voilà. Et pourquoi tous les deux d'abord parce que ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît. Par le biais d'associations professionnelles, parce que je ne suis pas qu'une... Enfin, j'ai plusieurs vies dans ma vie que je continue qui conversent entre elles, on va dire. On est toujours le fruit de son histoire personnelle et professionnelle quand même. J'ai travaillé en PME. Mon premier CDD, c'était dans une PME du bâtiment de 25 personnes où j'étais comptable unique et je faisais la paye, bien sûr, même si je n'étais pas comptable de formation, mais fiscaliste. Après, finalement, les postes qu'on me proposait, c'était des postes toujours autour de la compta. Donc, je me suis dit quand même, je voudrais bien faire des choses avec l'humain. Donc, j'ai entamé des études en communication. C'est pour ça le doctorat en sciences, carrément jusqu'au doctorat, pourquoi pas, en sciences de l'infocom. Et puis, une thèse, comme je faisais la publicité, comme je faisais de la radio, c'était le moment des radios locales, les radios libres, tout ça. Donc, je faisais en titre bénévole de la radio. J'ai fait une thèse sur les radios. Hein. Pourquoi pas, et la publicité, puisque ça a commencé à émerger. Et puis après, j'ai continué à travailler. Et puis j'ai travaillé en communication interne dans un grand groupe à l'aérospatiale Aquitaine. Et puis après à la Poste, en com externe, autre expérience de grand groupe. Et puis je me suis rendu compte que il y a des choses bizarres qui se passaient à mes yeux, parce que et c'est bizarre, ces éléments-là, je les ai retrouvés finalement beaucoup d'années après, quand j'ai commencé à travailler à l'université et que mon champ de recherche, je l'ai focalisé sur les PME. Et quand j'ai commencé à rencontrer vraiment des dirigeants de PME, certains d'entre eux, ils ont dit, voilà, je ne veux plus... C'est le cas du monsieur qui vient de rentrer, on n'a pas fait exprès. Bonjour. Je ne veux plus travailler dans un grand groupe, parce que je ne vois pas pourquoi maintenant, dans le management tel qu'il m'est recommandé, il faut que je sadise mes salariés. J'ai pas envie de les sadiser. Mes collaborateurs, ils sont très bien. Donc je m'en vais, je crée mon entreprise pour montrer qu'on peut gérer de manière humaniste. Et avec une performance aussi bonne et peut-être même meilleure, et en tous les cas une durabilité certaine avec des gens que je respecte, qui me respectent, et voilà. Donc l'aventure est partie comme ça, et Michel, lui, c'était son idée de faire un ouvrage, parce que un ouvrage comme ça, court, il fait que 250 pages, pour dire que c'est qu'en fait il y a pas de modèle. Si vous regardez le sous-titre, qui est presque plus important que le titre, mais il est en plus petit parce que c'est un sous-titre, c'est loin des modèles. Pour ne plus tarir les hommes au travail, mais c'est loin des modèles. Donc l'idée, c'était de se dire que ben, la PME, c'est, il n'y a pas une PME qui ressemble à une autre PME, et qu'on est toujours en train de travailler sur non pas du prêt-à-porter, du prêt-à-outils, mais du sur-mesure.
Et vous, Michel, donc effectivement, ESPER, c'est ce thème de la RH, je crois que vous le traitez un peu. Pourquoi la PME, donc, pourquoi ce choix-là?
D'abord parce que j'ai travaillé comme consultant pendant des années. Donc je connais un peu, oui, parce que j'ai quand même des idées sur les PME. Donc ça m'intéressait. Je suis aussi formateur. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des documents, des supports pédagogiques de formation professionnelle qui sont très bien réalisés. Mais avec un arrière-fond théorique qui est à peine esquissé. J'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas de liaison entre donc, des documents, des supports de formation continue, souvent très bien réalisés, très clairs, et des ouvrages plus théoriques. En fait, dans cette gestion du personnel des PME, il y a quelques ouvrages de référence qui sont en général des ouvrages réservés aux spécialistes, assez difficiles d'accès. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc, si vous voulez, l'idée, c'était relier la formation continue à ce qu'elle peut avoir de, quelquefois, un tout petit peu réducteur, parce que c'est vraiment axé uniquement sur le terrain, avec des ouvertures théoriques. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, le tout sous un format court. D'ailleurs, la structure de l'ouvrage est faite pour une compréhension qu'on espère facile, notamment dès les premières pages, on a un schéma général de fonctionnement d'une gestion du personnel stratégique. On a pris fait et cause pour une gestion du personnel stratégique, c'est-à-dire en déclinaison de la stratégie de direction générale. C'est quand même ça qui est demandé par la direction générale, si vous voulez, d'adapter la gestion du personnel aux décisions stratégiques qui ont été prises. Donc voilà, c'était l'idée. Et puis expert judiciaire, oui, on fait de tout. J'ai aussi été administrateur provisoire de deux mosquées. Bon, on fait quelquefois le droit est un peu, mène un peu à tout. Et effectivement, j'ai été en position de DRH pendant des années, je le suis encore, pour des PME qui veulent bien me faire confiance. Donc, si vous voulez, le tout donne des idées. On peut en arriver même à s'entendre avec un directeur qui est un pilier du local du Front National. Finalement, souvent, ils sont sur un terrain d'humanisme traditionnel, on arrive à leur faire des choses. Je veux dire, la gestion du personnel a quand même une certaine autonomie par rapport aux idées de la direction générale. Pas trop, parce qu'après, on se fait virer. Bon.
C'est souvent le risque.
Il faut faire attention. Mais si vous voulez, il y a une petite part d'indépendance, à condition qu'il y ait un emballage, si vous voulez, qui corresponde au langage du directeur. Parce qu'en général, dans les PME, c'est le patron est également le propriétaire ou largement majoritaire de la société détenue par l'entreprise. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, c'était l'idée, c'est reprendre un peu tout ça. Et élargir par rapport à des supports de formation continue, qui en général font une cinquantaine de pages, c'est tout de même un peu court, quoi.
Voilà, alors l'idée, c'est de faire simple, pas forcément très long. Et on peut prendre... Moi, j'aime bien travailler avec des tableaux, donc je me fais plein de petits tableaux qui sont des fois dans l'ouvrage en annexe, mais pas tout n'y est pas. Et si on imagine un outil de gestion des ressources humaines pour la gestion des compétences, par exemple. Voilà, ça, c'est, l'idée, c'est de se dire qu'il y a autant de compétences que d'objectifs. Hein. Et par rapport aux besoins. Et donc, c'est d'essayer de tenir compte des buts et du contexte. Bon, c'est pas simple, mais si on le fait pas, si on utilise quelque chose qui est tout près dans la boîte à outils, ça risque pas marcher.
Alors, justement, donc boîte à outils, c'était un petit peu la vocation de votre ouvrage. Moi, ce qui m'interpelle lorsque je prends le titre, c'est le mot piloter, pilotage. Piloter, c'est quand même très dirigé comme action. Et donc, ma question, elle était un peu justement, pourquoi ce titre ? Ça veut dire que pour vous, la PME a un particularisme qui fait que la ressource humaine doit être vraiment gérée, pilotée d'une certaine façon ? Pourquoi ce titre, en fait, compteur ?
La PME, surtout, a une lisibilité visible, contrairement aux grands groupes. Si vous voulez, la GRH dans un grand groupe, c'est quand même une usine à gaz assez compliquée, avec souvent des acteurs du département RH qui ont peu de visibilité générale. À part le DRH, on se rend souvent dans quelques groupes qui a une visibilité générale. Je pense qu'il y en a relativement peu. Ce qui est intéressant en PME, c'est que la lisibilité est beaucoup plus simple. Donc, quelque part, ça permet, les PME donnent les bases de la gestion du personnel. Particularité, en plus, il y en a, mais quelque part un peu marginale. C'est-à-dire, quand on pense à une nouvelle action, un nouveau poste, on met souvent un nom derrière ce nouveau poste. Parce que Martin ou Dupont, il s'est déjà bien débrouillé jusqu'à maintenant. Il a l'air tout à fait tout terrain et multifonction. Donc, on met Martin ou Dupont. Quelque part, ils réfléchissent pas tellement au contenu du poste. On met Martin ou Dupont parce que Martin ou Dupont, il se débrouille en principe. Voilà.
Alors après,
donc, ça c'est effectivement une particularité. Mais il n'y a pas vraiment de particularité des PME. C'est simplement que les gens se connaissent, effectivement.
Ils se connaissent parce que c'est à taille humaine. Il y a ce côté-là. Puis d'ailleurs, c'est une entreprise. La PME, ça renvoie aussi... Si je reprends mes données statistiques que je vais retrouver là, voilà, on sait que en février, il y a eu un sondage 2014. Bon, ça date un petit peu, mais enfin, c'est quand même encore bon. Il y a eu un sondage concernant les Français par rapport à qu'est-ce qui pour vous peut faire en sorte que redresser l'économie de la France. 78% des Français disent c'est les PME-TPE. Voilà. Après, 47% disent c'est les grandes entreprises, 42% les experts économiques et 27% les pouvoirs publics. Ça parle de même. Voilà, il y a une confiance, un capital confiance pour la PME, d'une part. Et pourquoi il y a ce type de capital confiance ? Parce que il y a eu un autre sondage aussi qui a été fait... À quoi ressemble l'entreprise idéale ? Voilà, c'était le titre du sondage. Et ben il ressort que l'employeur numéro un, c'est la PME. Voilà, c'est l'entreprise idéale pour 40% des Français. Donc on est dans ce capital confiance. Pourquoi on est dans ce capital confiance ? Parce qu'on pressent qu'il y a une culture d'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, culture d'entreprise ? C'est un mélange avec la culture régionale, nationale, régionale. Puis, c'est surtout avec la personnalité du dirigeant. Il est visible, le dirigeant, qui est souvent fondateur. Il a ça vient de ses valeurs socio-éducatives, qui va essayer, du coup, construire un peu, parce que c'est plus facile. Parce qu'on peut co-construire quand on n'est pas énorme, mais non, de personnes qui sont parties au début dans l'aventure. C'est pas des associés, mais c'est aussi des simples collaborateurs. Salariés. Et donc, on va essayer de voir aussi, bien sûr, le professionnalisme des uns et des autres, les cultures professionnelles des uns et des autres et du dirigeant, avec tout ce qui peut marquer dans l'histoire de l'entreprise. Et tout ça, ça fait un mélange. Et ce mélange, ça permet quoi ? D'assurer la cohésion et la survie de l'entreprise. Et puis, du groupe social qu'est l'entreprise. Et puis d'améliorer, bien sûr, l'idée de communiquer entre les uns et les autres et surtout sur des visions différentes. Et ça, on peut le faire en PME. C'est plus difficile en grand groupe. Ce n'est pas une particularité de manager. C'est le fait que... On n'instrumentalise pas trop. On n'est pas là pour instrumentaliser le management parce que ça va pas remplacer la capacité de manager à faire en sorte que l'intérêt pour lui, pour le dirigeant, c'est que c'est qu'il s'appuie sur les cerveaux de ses salariés. Voilà. Et il a compris ça sans lire des trucs. C'est d'une évidence. Enfin, c'est vrai, c'est d'une évidence bête et méchante. Il n'a pas lu tous les bouquins qu'on lit sur le management, etc.
Oui, parce qu'effectivement, en grand groupe, les problématiques RH sont sûrement aussi importantes. Mais le lien, effectivement, entre peut-être celui qui mène l'entreprise et puis le dirigeant d'un grand groupe, il n'y a peut-être pas les mêmes problématiques. Alors justement, en page 25 de votre ouvrage, vous abordez une question sur, et vous mettez en avant en disant, une responsabilité sociale de l'entreprise plus présente qu'on le croit. Ça veut dire quoi? C'est quoi aujourd'hui donc la RSE? Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de responsabilité sociale au sein des entreprises. C'est quoi ce thème RSE qu'on entend de plus en plus parler? Est-ce qu'elle est plus marquée peut-être en PME, moins marquée? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus de choses, qui a un passage intéressant dans votre ouvrage justement?
Responsabilité sociale, la responsabilité des précédentes des chefs d'entreprise, on y a toujours pensé. Le premier ouvrage connu qui a parlé de ça, c'est Dere Rome Novarum, une encyclique papale de 1891. On est dans une république laïque, dont on oublie le poids de l'Église, mais l'Église était quand même, fin du 19e, un groupe de pression extrêmement important. Voilà. Donc, si vous voulez, la parution de Dere Rome Novarum, il a été question de responsabilité des chefs d'entreprise. Le tout après quelques exactions au 19e siècle. En fait, en gros, il n'était même pas interdit de tuer ses salariés. Ils ont essayé les horaires de travail qui étaient au-dessus des travaux forcés, quand même. Quand on fait travailler les gens entre 16 et 18 heures, c'est au-dessus des travaux forcés. Parce qu'avec la découverte de la lumière, on pouvait faire travailler les gens la nuit. Dans tout ce qui est tissage, j'ai travaillé 16 heures par jour parce qu'ils foutaient rien, soi-disant. C'était le point de vue patronal et qu'ils faisaient rien. La preuve, ils surveillaient les machines. Donc, quand les machines ne tombaient pas en panne, ils n'avaient rien à faire. Moyennant quoi, ils avaient des journées de 16 heures. C'était quand même ça, le 19e.
C'était 35 heures.
Les 36...
Par jour.
Il y a eu, dès la fin du 19e, l'Église s'en est émue. Le patronat chrétien était d'ailleurs, aurait vraiment étranglé le pape de l'époque, parce que ça ne leur plaisait pas du tout qu'il intervienne là-dedans. Mais si vous voulez, ça date de loin. À part ça, la RSE, de toute façon, c'est en fait, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est prendre en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes. En gros, il y a autant de définitions théoriques que d'auteurs, donc on ne va pas descendre dans les détails. Et la responsabilité sociale de l'entreprise, elle est émergente dès le Front populaire, quand même, avec une volonté de dialogue social avec les salariés, puisque il a commencé par avoir délégué du personnel, et le Front... Le Conseil de la Libération en 1945 a créé les comités d'entreprise. Donc, si vous voulez, ça ne date pas d'hier. Ce qu'il y a maintenant, le Code du travail va de plus en plus vers un humanisme, qu'on le veuille ou non. Si vous voulez, l'État se paye le luxe de coller un humanisme sur le secteur privé, une obligation d'humanisme. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'à la clé, il y a 30 millions d'électeurs, quand même.
Ou 40.
Si vous voulez, cette dimension politique du droit du travail, qui est évidente, mais en général, pas souligné, je trouve ça dommage. Il est évident que même Le Pen, si vous voulez, est pour les travailleurs. Le seul bémol qu'il met, il est pour les travailleurs français. Mais même Le Pen n'en met pas en question les HLM, n'en met pas en question les allocations familiales, il ne remet rien en question. L'université quasiment gratuite, il ne remet pas en question. C'est des choses qu'il n'y aura jamais aux USA. Pour eux, c'est du rêve, université gratuite. Des HLM aux USA, franchement, c'est une idée de cinglé, je pense, pour eux. Il faut quand même voir que on baigne dans une responsabilité sociale, y compris au niveau de l'État. On a parlé longuement de l'État-providence, on n'en parle plus, mais quelque part, il existe. Et au niveau des entreprises, quand même, pour ce qui est des salariés, il y a un respect multiforme dû aux salariés.
De congés.
Un respect multiforme de la sphère privée, de la sphère des opinions, de tout ce qu'on veut. Donc ça va assez loin, si vous voulez. On a dénombré 17 sortes de respect dans notre ouvrage. On peut les regrouper à une dizaine, si vous voulez, mais c'est quand même un respect multiforme dû aux salariés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une obligation de formation. La formation tout au long de la vie est un devoir national. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il faut que les salariés qui le veuillent puissent se former et augmenter leurs compétences. Et c'est obligatoire avec un budget obligatoire tout de même. En plus, il faut leur distribuer des bénéfices au-dessus de 50, de manière obligatoire. Et avec des incitations, avec des accords avec le syndicaliste de l'entreprise pour un partage des bénéfices. Ça fait quand même beaucoup. Si vous rajoutez à ça, effectivement, 32 sortes de congés, ce qui n'est pas rien, y compris des congés de mandat parlementaire, des congés de mandat machin, des congés de solidarité internationale. Et en plus, avec le DIF, on pouvait même faire de la broderie vénitienne du XVIe siècle si on voulait, comme si ça intéressait les entreprises, qu'on soit, compétent en broderie vénitienne du 14e ou du 16e siècle. On pouvait aller faire des stages d'initiation à la course de moto, quand même. Je veux dire, la sphère privée du salarié était touchée, était même, je veux dire, facilitée, y compris, bien sûr, Photoshop, machin. Alors, maintenant qu'il y a un compte personnel de formation, c'est moins permissif. Oui. C'est dommage. Mais avant, on pouvait faire n'importe quoi, y compris, je ne sais pas moi, l'initiation au libertinage en groupe, j'en sais rien. Pourvu qu'ils aient un numéro de formateur, c'était possible. Alors, je pense que dans une entreprise, ce n'est pas considéré comme quelque chose de vraiment intéressant pour la gestion de l'entreprise.
Ah, non. Ça dépend.
Pas plus que les... ça dépend peut-être. L'initiation à la course de moto non plus, et la borderie vénitienne encore moins. Non, mais ça allait jusque-là. Non, on a osé le terme épanouissement citoyen dans l'entreprise. Justement, dans notre ouvrage, le chercher dans... C'est pas de le chercher dans une communication étatique, il n'y a aucune communication officielle sur un épanouissement citoyen dans l'entreprise. Mais quand même, respect multiforme, 32 sortes de congés, une obligation de formation, la vie familiale facilitée, il y a quand même 7 congés liés à la famille, y compris pour l'adoption, pour tout ce qu'on veut. Il y a un congé pour faire les papiers, pour acquérir la nationalité française, 32 sortes de congés qui couvrent à peu près tous les besoins. Non, effectivement, on peut parler d'épanouissement citoyen dans l'entreprise. Et cette dimension est extrêmement présente dans le Code du travail, ce qui fait que le Code du travail, en fait, est une espèce d'humanisme calibré. Pourquoi calibré? Parce que ça passe par des textes. Et en fait, il définit des couloirs comportementaux. Il faut quand même savoir qu'il y a plus de 300 pages de pénalités dans le Code du travail. Et des tas de motifs de se retrouver devant un tribunal correctionnel. Il y a d'ailleurs des journées patrons à Bordeaux. C'est très chic. Hein. Il y a un cadre qui tient la main, il y a l'avocat. Vous avez des journées patrons. Alors, on met quelques voyous au milieu parce que, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de patrons. Alors, bon, je vous conseille pas ça pour les démarches commerciales parce qu'ils sont quand même un peu inquiets. Mais voilà, ils attendent leur tour et c'est vrai qu'ils sont inquiets. Alors, mais il y a des demi-journées patrons à cause des accidents de travail, à cause de la pollution, à cause de tout ce qui... pollution et puis aussi l'hygiène.
Voilà, mais la responsabilité a toujours été présente. Enfin,
comment
la définition toute simple. Enfin,
alors. Chargé de communication, justement d'entreprise, peut travailler autour de ça. Est-ce que c'est un thème
Mais si, mais c'est un thème qui a toujours été là. Enfin, je veux dire.
Que vous, en vous enseignez par exemple ou vous mettez en avant.
Bien sûr. Moi, j'enseigne la GRH et puis la RSE et puis bien sûr la com interne. Matinée droit du travail parce qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, je veux dire, c'est la base. C'est pas parce que je suis pas et la sociologie des organisations aussi parce que ça permet de comprendre d'où on vient aussi. Et la responsabilité, le terme responsable, si on peut s'amuser à repartir sur ce que vous voulez peut-être dire Kant, mais c'est vrai que c'est l'idée que finalement, c'est penser à les impacts les plus négatifs de la future prise d'acte que l'on va mener. Et d'ailleurs, le pape François, il a sorti son encyclique au mois de juin, il parle de ça aussi en disant voilà, c'est quand même extraordinaire qu'on fasse payer les éléments de pollution, non pas aux pollueurs, mais les éléments éventuels de pollution, non pas aux pollueurs, puisque c'est pas un danger imminent, parce qu'on ne sait pas trop, mais finalement aux consommateurs. Puisque finalement, on va vous dire, pour que votre voiture ne pollue pas, je ne renvoie pas à l'histoire de Volkswagen, mais bref, pour que votre voiture ne pollue pas, il y a un système de bonus-malus. Si vous achetez une voiture qui pollue, vous serez malusé. Si vous polluez moins, malusé. Enfin, ça, c'est le principe. Mais c'est quand même vous, consommateurs, alors que finalement, vous ne vous demandez rien. Donc, c'est quand même extraordinaire que ça se fasse comme ça. Et que ça soit pas le constructeur qui se le paie lui-même. Enfin, je veux dire, parce que voilà. Donc, c'est parce qu'il incite à la pollution. À la limite, ne plus utiliser de voiture, ce serait peut-être pas plus mal. Voilà. Donc, bref, c'est ça l'idée.
Donc, la RSE,
c'est vieux comme le monde. Aristote en parle. Voilà. Donc, il parle d'harmonie, etc.
L'Égypte ancienne. Donc,
c'est du bon sens aujourd'hui. C'est effectivement un lien économique nécessaire pour que effectivement l'entreprise puisse.
Si on repart d'Aristote, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie entre l'économie, le politique. Et le politique, c'est le citoyen qui a le devoir finalement d'être d'aller vers le bonheur aussi tant qu'à faire. Donc ça va très loin cette affaire-là. Donc dans un sens de responsabilité.
Alors
puisqu'il y a le respect des autres et l'altérité.
Autour de ça, aujourd'hui, l'économie, la mondialisation, les choses bougent. Comment est abordée justement ces évolutions régulières de compétences qu'il faut mettre ? On parle beaucoup et on entend dans les discours des thèmes comme la GPEC, donc la gestion des compétences et des métiers, des emplois. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce que cette problématique, notamment pour la PME, comment elle doit l'aborder ? Est-ce que votre ouvrage en fait part et peut aider effectivement un chef d'entreprise à mieux aborder ces questions-là qui sont pas toujours simples ?
Bon, on n'a pas oublié la GPEC, on peut pas passer au travers. On ne peut pas écrire un bouquin généraliste sur la RH et passer au travers de la GPEC. Non, effectivement, c'est la dimension prévisionnelle de l'emploi. Et cette dimension prévisionnelle est quand même un instrument de pilotage intéressant et performant. Normalement, ça commence par faire l'inventaire des compétences dans l'entreprise. Mais c'est très bête, si vous voulez. Il y avait des camionneurs polonais. Pendant 2 ans, personne ne comprenait rien à ce qu'ils racontaient. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y avait un polonais qui travaillait dans un atelier. C'est tout bête, mais je veux dire, on en a besoin des fois. Après, du coup, ils ont recensé toutes les langues parlées. En fait, ils se parlaient une quinzaine de langues dans l'entreprise. Donc, bon, faut-il faire un peu enquête pour le savoir. Là, c'est ça aussi. C'est une cartographie des compétences qui permet notamment de bâtir des réorientations stratégies de direction générale, en sachant qu'on peut compter sur un certain nombre de compétences. Donc, révéler les compétences exactement présentes, faire une cartographie des compétences de l'entreprise. C'est pas une nécessité au sens littéral du terme, mais c'est quand même d'une extrême utilité. Pour faire bref sur la GPEC.
Oui, et du coup, un lien fort, effectivement, sur les questions, là aussi, d'absentéisme ou de perdre. On parle beaucoup, justement, de burn-out, mais on parle aussi de gens qui s'ennuient au travail.
Oui.
Est-ce que, justement, cette gestion de GPEC ou autre favorise ou pas
l'idée, c'est de l'information, quoi. Alors là, c'est la casquette SIC qui va repartir. C'est l'information. Parce que l'enquête, l'information, faire remonter l'information, aller chercher l'information et la partager. Alors, il y a aussi des systèmes d'information dans les PME. Hein, mais ça peut être sur des moyens beaucoup moins sophistiqués qu'un système d'information. Mais ça, si on a un peu de bon sens, on va bien comprendre que quand l'information est partagée via quel que soit le système qu'on utilise, si c'est regardé comme quelque chose qui permet de faire progresser l'activité et non pas uniquement quelque chose qui va permettre de pointer que effectivement on est bien sur l'objectif, non, c'est plutôt de faire progresser l'objectif. L'idée, c'est de dire on s'est mis comme objectif de faire 10% de vente de plus de ce stylo. Enfin, et puis, ceux qui sont sur le terrain vont renvoyer que Il est monochrome et tout, ça ne plaît pas trop. Puis en plus, le jaune, c'est plus à la mode. Donc, on ne fera jamais 10% de plus. Donc, on va retravailler sur cet élément-là. Donc, c'est un va-et-vient quand c'est possible de le faire. Hein. Ce n'est pas toujours possible de le faire, mais c'est un va-et-vient de réajustement. Ben, si vous le comprenez pour une vente de stylos, n'importe quoi, vous le comprenez aussi, vous pouvez le comprendre aussi sur les compétences des uns et des autres, toujours dans l'objectif de faire en sorte que on puisse aller faire une sorte d'ajustement par rapport à la vision stratégique qu'a le dirigeant. Mais cette vision stratégique, il va pas se la caler comme ça, je veux que des jeunes, au stylo, mais il va aussi, il va aussi réajuster ses propres lunettes. C'est vraiment une co-construction, même en ayant un coup d'avance, en disant, mais si, le jaune, je sais que dans 2 ans, ça va être la couleur à la mode, parce que les cabinets de tendance dont j'ai regardé, j'ai fait de la veille informationnelle et tout, j'ai vu que bon, ça allait repartir plein pot, donc il garde son dit, il réoriente, il réajuste et on peut le faire que si on sait ce qui se passe et si on partage tout ça, autrement on peut pas quoi. C'est plus difficile sinon.
Donc ça contribue effectivement.
Et ça contribue à être dans de la co-action, de la co-création, et les gens ils s'ennuient pas du coup.
C'est un peu le bonheur au travail, parce que vous avez dans le livre effectivement abordé un grand chapitre sur l'animation et la dynamique des équipes. Ça veut dire que il faut quand même tout le temps être dans cette approche où il faut dynamiser les gens pour qu'ils soient bien, ou dans quel but chapitre est abordé, peut-être
dans
Michel.
Le but bon après ouais. Tant pis, j'ai pris le micro, lâche plus. L'idée c'est de dire l'idée c'est bête en fait, c'est de dire que quand on aime les enfin quand on est quand on part sur des idées, c'est pas facile hein, parce que c'est se rendre vulnérable aussi, c'est être dans cette présomption de confiance et se rendre vulnérable parce que qu'on fait confiance, l'autre au fond peut-être que il va pas vous il va peut-être vous escroquer, c'est comme dans l'amour, c'est pareil quoi en fait hein. Mais ben ouais. Donc c'est un peu la même approche, mais cette idée là,
je vois que c'est une
dame qui s'est... Il y a du vécu dans la salle. Donc, mais sur quoi je voulais venir, c'est sur comment elle se forme cette confiance, en fait.
L'aspect sociologique.
Dans l'aspect sociologique.
Après, on demandera à l'expert comment, lui, au niveau technique, il voit cet aspect.
Quels sont les fondements de cette confiance? Alors, sur quelque chose de très, très simple. Hein, je ne vais pas partir sur des grandes théories, parce que là, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit. Donc, on va résumer. L'idée, c'est de percevoir que l'autre est intègre. Bon, c'est pas... Alors, et ça, on l'utilise dans le recrutement, parce que quand on recrute quelqu'un, sur ses compétences techniques, oui, mais si on regarde encore les statistiques, les chefs d'entreprise, les recruteurs vont dire, 80%, c'est quand même la personnalité. Donc, on va regarder, enfin, on va essayer de tester un petit peu par des questions. Si, effectivement, on a en face de soi quelqu'un qui apparaît comme honnête... parce que cette honnêteté va mettre en cohérence, on peut supposer, les paroles et les actes. Déjà, c'est une cohérence intérieure en fait. Et puis ça va sûrement générer un comportement équitable avec les autres. C'est-à-dire, on est un peu dans l'altérité, l'un vaut autant que l'autre. Et puis ça va encourager. Ça va encourager les liens avec les autres et regarder toujours si tout ça, c'est en lien avec les valeurs auxquelles on croit et les convictions que l'on a. Parce qu'on a tous des valeurs, énormément, on en a 3, 4, 5. Bon, ça, c'est la sociologie qui le dit, mais c'est vrai. Et c'est notre pilier de vie, en fait. Et à partir de là, le dirigeant, il va voir si tout ça, c'est compatible avec lui et son socio-éducatif, je veux dire, et avec ce qu'il sait de ses salariés, parce qu'il les a quand même recrutés, plus ou moins. Donc, il sait de quoi il parle, un peu. Et puis, une fois qu'on... C'est une idée. L'honnêteté, c'est une idée, hein. C'est une valeur, c'est une idée. Après, il faut la mettre en action. La mise en action, c'est les intentions. Dans les intentions, vraiment, on va retrouver s'il y a une motivation assez nette qui est fondée sur cet intérêt mutuel qu'on a vis-à-vis des autres et que les autres ont vis-à-vis de vous, dans l'idéal. Donc, on aura un souci des autres et en même temps de soi aussi. Il ne faut pas oublier que là, c'est Todorov qui le dit, c'est un anthropologue, sociologue qui dit, depuis 20 ans, il le dit, donc ça doit être vrai quand même, qu'on existe par le regard des autres. Il ne faut pas oublier ça. Et on est par soi, mais par le regard des autres. Donc c'est important. Et du coup, on va retrouver ce désintérêt, ce sens des responsabilités. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va penser peut-être aux impacts les plus négatifs avant de dans ce cheminement de prise de sa future prise d'acte. Ça ne suffit pas, il faudra les capacités après, parce que ben, ça, c'est les intentions, mais on veut des actes. Donc les capacités, ça va être les aptitudes. Les capacités sont les aptitudes. Et dans les aptitudes, qu'est-ce qu'on met en premier ? Les talents. Et les talents, c'est quoi les talents ? C'est faire c'est la façon de faire qu'a quelqu'un pour quelque chose qui est un peu différent des autres, mais c'est comment il fait pour y arriver, quoi, là. C'est ça. Et après, eh ben, on a des résultats qu'on va pas forcément mesurer parce que c'est pas évident de mesurer, mais on va regarder les manières d'y arriver. On va regarder si on a pu répondre au mieux à une situation complexe donnée.
Justement, alors Michel, peut-être par rapport à justement cette question sur la façon d'animer et d'dynamiser, est-ce qu'il y a des outils particuliers dans le livre? Il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Est-ce que toi, en tant qu'expert, comment tu abordes et tu vois derrière cette question quand elle est mal à traiter ou si elle est bien traitée? Est-ce qu'il y a on peut la mesurer effectivement?
Alors, je ne suis pas docteur en communication.
Non, effectivement.
C'est pour ça que je l'ai laissé parler. Mais il y a aussi des étapes en amont. C'est-à-dire que, par exemple, un salarié se sent plutôt bien quand il sait ce qu'on attend de lui. Et si vous prenez tous les postes de travail, n'importe quel poste de travail a un minimum en qualité et en quantité. Vous le tournez comme vous voulez, mais il faut un minimum de qualité et de quantité, tout simplement parce que ces critères de minimum sont ceux qui sont respectés par les concurrents la plupart du temps. C'est tout bête. Si vous faites moins bien que vos concurrents, si vos salariés font moins bien que la moyenne des concurrents, votre entreprise est quand même plutôt en péril. Non, si vous voulez, tous les postes de travail ont un minimum en qualité et en quantité. Quelle est l'étape 1 d'animation ? C'est indiquer ce minimum en qualité et en quantité. Donc, il faut communiquer dessus et expliquer pourquoi. En général, les salariés ont très peu d'accès à une vision générale de l'entreprise. Ils sont assez friands d'explications. Alors déjà, si un salarié sait ce qu'on attend de lui, au moins, il y a ce côté rassurant de savoir ce qu'on attend de soi. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises, finalement, qui prennent la précaution d'expliquer à l'ensemble de leurs salariés quelle est l'utilité dont on attend de lui. Voilà. Bon, ça, déjà, c'est la première étape, donc c'est tout ce qui est information et communication. Ensuite, il est pas, à partir du moment où on sait clairement qu'est-ce qui est attendu des uns et des autres, quand même, on arrive beaucoup plus facilement à cerner un seuil de gratification. Il y a un seuil de sanction qui, en général, est redouté. Mais si vous voulez, la politique disciplinaire, ça fait 2500 ans qu'on dit qu'il en faut une. Depuis l'art de la guerre, c'est un Chinois avec un nom imprononçable qui a fait ça, je crois. C'est le premier. Aristote n'était pas loin.
4000 ans.
Les Grecs anciens et les Chinois sont un peu à touche-touche, là. Donc, je pense qu'on doit trouver quelque chose chez Aristote, parce qu'on trouve de tout chez Aristote. Donc, on doit trouver, mais juste là, je n'ai pas la référence. Alors, donc, d'abord, première étape, donc, expliquer ce qu'on attend des salariés. Ensuite, si vous voulez, on peut, bien évidemment, qu'il y a des salariés qui, du coup, respectent avec beaucoup de régularité les critères minimums imposés sur un poste de travail. Voyant quoi cela, c'est les salariés qu'on essaye effectivement de promouvoir, de faire aller plus loin, puisqu'ils arrivent très bien à maîtriser leur poste. Donc tout ça, si vous voulez, donne à la fin une dynamisation, mais sur les outils en amont, il me semble. Et l'amont me paraît intéressant, tout ce qui est communication sur les postes de travail et ce qui est attendu. Et j'ai un regret, on sait par son entreprise que les défauts de communication sont en général très peu sanctionnés. Je suis désolé, mais le partage des informations nécessaires au travail est une donne extrêmement importante. Et notamment, ceux qui font la rétention d'informations pour se hausser un peu du col et dire et montrer aux supérieurs hiérarchiques qu'eux ne font pas d'erreur, bon, il y a en quoi ils font de la rétention d'information, cela c'est la porte. Et ils vont passer à la porte. Quand je fais des contrats de travail, en tout cas, je fais très attention à l'aspect communication, et ils prennent la porte s'ils ne communiquent pas, s'ils ne font pas circuler les informations utiles. Et puis ils la prennent vite fait, ils en ont un premier et dernier investissement, et après c'est la porte. Et je pense que cet élément est sous-évalué, et c'est un élément aussi de justice. Vous avez aussi des fois des commerciaux qui font en général des cartons pleins là, en chiffre d'affaires, mais qui brûlent le secteur complètement. C'est un grand classique. Le meilleur commercial est le meilleur brûleur de son secteur. Vous mettez quelqu'un derrière, il y a 2 ans de stock chez tous les clients, et je veux dire, il ne vend rien. Il n'a rien à vendre. Et en plus, l'entreprise a une mauvaise image. Mais vous avez comme ça des soi-disant très bons commerciaux, quand on voit que les chiffres, qui sont de très mauvais représentants des entreprises. Ça arrive.
Donc ce rôle est important. Alors, on va peut-être parler un petit peu d'actualité, puisqu'effectivement, cet ouvrage arrive dans une actualité riche, puisque, comme vous le savez, dernièrement, le président de la République a fait une annonce sur le rapport Combrezel sur les négociations que le gouvernement mène. Et j'aurais voulu avoir votre approche, j'ai compris dans son discours qu'il va vouloir donner plus donc de latitude aux partenaires sociaux, aux employeurs, aux salariés, vers effectivement la formation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, par rapport justement à tout ce que vous avez pu aborder, c'est quoi la position aujourd'hui ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Ou est-ce qu'on est plutôt, encore une fois, dans une mainmise de l'État sur l'organisation et la gestion de la ressource humaine en entreprise ? Est-ce que vous pourriez dire un petit peu un mot sur l'actualité par rapport à ça ?
Ça fait 20 ans maintenant que les gouvernements de gauche passent des textes de droite et que les gouvernements de droite passent des textes de gauche. Je veux dire, c'est comme ça, c'est une donne moderne, ça dure depuis 20 ans, c'est un constat. Moi, je ne suis pas politique, et puis je constate juste que Hollande a fait passer un texte plutôt de droite. Sarkozy, lui, a fait passer un texte de gauche, notamment pour les... Il y a le délai de prévenance avant de mettre fin à la période d'essai. Bon, texte de gauche, quand même, pas de droite. Chirac a décidé que licenciement économique obéissait aux mêmes critères que le licenciement pour cause de personnel. Ce qui a beaucoup réduit les licenciements et qui a beaucoup gêné le patronat. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas quoi y penser. Mais ça fait depuis 20 ans, en tout cas, c'est un classique. La gauche vote les textes de droite et la droite vote les textes de gauche.
Mais
les électeurs comprennent ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça.
Est-ce qu'on peut envisager une réduction du code du travail ? Parce qu'effectivement...
Oui, il fait 3500 pages. Hein.
3800 pages. En édition de référence d'Alloz, je crois que c'est 3008.
Voilà. Bon. C'est vrai que ça... Ça peut faire mal lors des interrogatoires de police, parce que c'est aussi gros qu'un numéro téléphonique. Non, je plaisante. Bon. Le réduire, mais pas 150 pages, je ne crois pas que ce soit possible. Hein.
Lyon-Caen a fait un effort avec, je ne sais pas trop qui, et Badinter,
oui,
je crois.
Et Badinter, oui.
Ils ont fait un code du travail qui tient sur 200 pages. Bon. Effectivement, ça pourrait se faire, mais ça, c'est le problème. Les politiques étant ce qu'ils sont... C'est l'installation de couloirs comportementaux pour les employeurs qui prend beaucoup de place. Notamment, tout ce qui est sécurité, alors on dit sécurité de résultat pour la santé physique et mentale des salariés, ça fait 40 ans que c'est une sécurité de résultat parce que la jurisprudence de la Cour de cassation était comme ça. Donc tout d'un coup, on découvre que c'est une obligation de sécurité, 40 ans après, parce que c'est inscrit dans les textes, c'est gadget ça. Enfin, pour moi, c'est complètement gadget puisque ça faisait 40 ans que tout le monde était d'accord dessus. Non, mais c'est... Et la sécurité, c'est 600 pages. Et c'est pas complet.
Donc vous avez les règles sont... Et le vote, il fait combien de pages ?
J'ai 250.
Pas 250. En tout cas, bon. Donc, belle boîte à outils. Beaucoup de choses, effectivement, circulent. Et va permettre d'appréhender plus facilement cette gestion de ressources humaines pour ceux qui sont des RH aujourd'hui, peut-être, mais aussi pour les chefs d'entreprise. Moi, j'avais peut-être une dernière question avant de laisser la salle s'exprimer à toi, Annick, sur... moi, il y a une petite... En préface, il y a un petit texte, là, il y a une petite citation qui dit « Si l'on pouvait croiser l'homme et le chat, ça améliorerait l'homme, mais ça dégraderait le chat. » Pourquoi cette citation dans un ouvrage comme celui-ci ? J'aurais voulu avoir une petite explication avant.
Donc, c'est de Mark Twain. Pourquoi j'ai pris cette citation-là ? Parce que j'aime les chats. Bon, alors, autant se faire autant se faire plaisir. Deux, parce que le chat n'est et bien sûr c'est un bon, c'est un félin, c'est un prédateur, mais lui il va quand il fait sa prédation, si je puis dire, c'est pour se nourrir. Enfin, sauf nos chats qui sont tellement nourris de croquettes et qui viennent prendre la petite souris ou le mulot ou je sais pas quoi dans les champs et qui les rapportent tout sanguinolents sur le tapis pour comme en cadeau pour à sa maîtresse ou à son maître. Bon, mais dans la nature, si je puis dire, il va se nourrir. Puis voilà. Enfin, il va c'est pour sa survie. Et puis ça va pas plus loin. Alors que les hommes, dans la prédation, ils vont beaucoup plus loin depuis des millénaires, et que effectivement, ça serait peut-être que le chat, il serait encore plus, deviendrait un prédateur humain et qui. Et je vais juste rappeler une statistique. Ça c'est très sérieux. Par contre, en juin dernier, la médiation interprofessionnelle, qui est une sorte de satellite de Bercy, qui est une association qui est là pour essayer de comprendre, pour essayer d'éviter plutôt les défaillances d'entreprise, donc a commandité une étude. Et cette étude révèle que 90% des grands donneurs d'ordre ne paient pas dans les délais les factures des sous-traitants PME, la plupart du temps, que ce soit sous-traitant, que ce soit fournisseur d'ailleurs. Et que ça génère 25% de faillite des 10 sous-traitants PME ou fournisseurs PME. Voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est de la prédation. Et que le chat, il n'agit pas comme ça. Voilà.
C'est très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu et d'avoir présenté effectivement cet ouvrage. Donc, bel outil pour ceux qui sont effectivement confrontés à ces questions. Je vous le conseille. Merci à tous et bonne soirée.
Et merci de votre présence.
On n'a même pas dit pourquoi Didier était là. Ça avait été un des grands relecteurs. Voilà, parce que cet ouvrage, on ne l'a pas fait tout seul. Le brouillon, on l'a envoyé à un certain nombre de patrons et de personnes dans les RH à l'état brouillon pour qu'ils nous disent de revoir notre copie éventuellement. Et après, on a finalisé.
Merci.